La conférence que vous allez entendre a été donnée dans le cadre de l'école de prière à Pau par le père Michel Leclerc le 24 mars 2026 sur Saint-Augustin et la prière.
Alors, puisque c'est la dernière fois que je vous parle d'Augustin, puisque la prochaine fois c'est le frère Pierre Moulia, je voulais finir en regardant Dieu. Vous voyez, pour finir sur une note heureuse et de béatitude. La béatitude, c'est la vision de Dieu. Donc, je voulais finir en regardant Dieu avec saint Augustin. Donc, on va commencer par une partie un peu plus exigeante sur Dieu lui-même. Et puis après, on finira par notre contemplation de Dieu, lumineuse et ténébreuse. On en a déjà parlé un peu la dernière fois. Et puis surtout, la béatitude. Voilà, Dieu comme notre bonheur. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que saint Augustin a toujours vécu dans une ambiance religieuse, y compris quand il n'était pas chrétien ou quand il était hérétique. Pour un homme de l'Antiquité, être athée, ça n'a pas de sens. Tout le monde croit en quelque chose, disons plus exactement, tout le monde a une religion. Parce que y croire ou ne pas y croire, c'est une question secondaire pour les anciens, mais tout le monde a une religion, tout le monde pratique des rites. Mais les anciens, les antiques, alors même qu'ils pratiquent des rites, sont inquiets pour l'au-delà, sont inquiets pour l'avenir, sont inquiets pour leur âme, sont inquiets pour l'éternité. Et je vois dans cette situation un paradoxe qui nous rappelle quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, peut-être c'est comme dans l'Antiquité, il y a beaucoup de chrétiens pratiquants non-croyants. Alors, pratiquants des quatre saisons, hein, pas forcément pratiquants tous les dimanches, mais on a affaire à beaucoup de personnes qui pratiquent des rites religieux. On sait très bien que dimanche prochain, pour les rameaux, on aura dans nos églises des gens qui viendront, qui repartiront peut-être après la bénédiction des rameaux parce qu'ils auront eu le rameau qu'ils doivent rapporter à la maison. Et donc ils sont pratiquants d'un rite religieux alors qu'ils ne savent pas s'ils sont croyants. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'Augustin a vécu quelque chose de cela. Il ne savait pas trop en quoi il croyait et pourtant il pratiquait des rites religieux. Alors il pratiquait des rites religieux païens avec son père, qui était païen. Et la question n'était pas tant de savoir si ces dieux existaient, hein, les dieux lars, les dieux pénates, c'est les dieux protecteurs de la famille, mais de s'attirer les bonnes grâces dans une visée un peu magique d'esprit ou de puissance. Et finalement, beaucoup de nos contemporains, quand ils viennent chercher un rameau, ils ont aussi cela, ça protège. Hein, c'est... Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, comme dit l'autre. Donc voilà, c'est pour une protection, alors parfois contre le mauvais œil, le mauvais esprit, mais ça protège. Voilà. Et c'est Dieu au pluriel qui protège, alors qu'à l'époque d'Augustin, on appelle Esculape, etc., enfin tous les noms des dieux de la mythologie romaine. Certains de nos contemporains, ils font rentrer dans ce panthéon moderne alors Jésus au milieu des autres, Sainte Rita, Saint Antoine, et puis au milieu, on trouve Bouddha et d'autres. Et donc, vous voyez, ils vivent dans la croyance qu'il y a des puissances, mais est-ce que Dieu est Dieu, est-ce que mon âme est immortelle, ça je ne sais pas. Et ça, ils demeurent inquiets. Et comme Augustin, ces personnes qui sont pratiquants non-croyants sont à évangéliser. Et il me semble intéressant de voir quel est le chemin qu'a fait Augustin dans sa conception de Dieu, parce que c'est un chemin qui correspond à la situation de beaucoup de nos contemporains. Et donc dans Augustin qui part de cette religiosité, qui n'est pas encore une foi mais une religiosité, cherche et est inquiet parce que cette religiosité ne répond pas aux attentes fondamentales de son âme, de son cœur. Il a en particulier des inquiétudes sur le sens de sa vie. Qui suis-je vraiment ? À quoi suis-je appelé ? Alors, avoir des protecteurs plus ou moins surnaturels, c'est une chose, mais ça ne répond pas à la question fondamentale. À quoi suis-je appelé ? Qui suis-je ? Et il va chercher. Alors, il va donner deux réponses erronées, au moins partielles, dans sa vie. Ce sera d'abord le manichéisme. Parce que le manichéisme, pour lui, a un but, c'est de donner une réponse à la question « Pourquoi je fais le mal ?» Donc la question du péché. Et alors, ça me semble intéressant pour une évangélisation aujourd'hui de prendre conscience que cette question du mal et du péché, c'est un lieu d'évangélisation majeur. C'est-à-dire que les gens que nous côtoyons se posent tous la question « Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde ?» Voilà. Cette question-là, aucun rite religieux ne peut y répondre. Il faut accepter la révélation. Il n'y a que la révélation qui répond à ça, c'est-à-dire Dieu qui va nous dire d'où vient le mal, pourquoi il y a du mal dans le monde. Cette question, elle taraude nos cœurs. Et vous voyez, je crois que puisqu'on a beaucoup parlé de la prière cette année, le scandale du mal vient nous toucher jusque dans notre prière. Comment prier alors que je fais l'expérience du mal, de la souffrance? Alors on en a un peu parlé la dernière fois ou la fois d'avant. Et puis comment prier alors que je fais l'expérience du mal que je fais, moi? Et vous voyez, pour Augustin, c'était aussi ça la question, c'est moi qui suis un homme pécheur, moi qui vois qu'il y a en moi une tendance au mal, comment puis-je m'adresser à Dieu qui, paraît-il, d'après les chrétiens, est bon? D'où vient le mal puisque Dieu est bon? Et il y a une première réponse, c'est « Et si le mal venait de moi ?» Et cette réponse, elle est vraie en partie. Je suis homme pécheur à l'origine de mes péchés et d'un certain mal. Et Augustin refuse cela. Il dit « Non, c'est pas possible. Je veux le bien et pourtant je fais le mal. » Expérience que nous faisons tous. Alors, à l'époque d'Augustin, le manichéisme, c'était une manière de dire « Mais non, moi, c'est mon âme. Moi, je suis spirituel. Et c'est mon corps qui m'entraîne à faire du mal. » Alors, mon corps au sens sexuel, mais pas que. C'est la matière en moi. Et donc, le manichéisme, c'était pour Augustin d'abord une manière de comprendre pourquoi il y avait du mal dans le monde, et surtout du mal en lui, de s'excuser du mal qu'il faisait, de ne pas assumer qu'il avait besoin d'être sauvé et guéri. Et je voudrais faire une comparaison avec notre époque. Aujourd'hui, à très juste titre, on développe la psychologie, les sciences humaines. À très juste titre, elles sont absolument utiles et même nécessaires. Mais parfois, c'est pour développer une culture de l'excuse en disant ben, « je ne suis responsable de rien ». Mais si le mal que je fais, que j'expérimente en moi, je dis « je n'en suis pas la cause », mais la cause c'est mon histoire, la cause c'est mes parents, la cause c'est la société, alors je n'ai pas répondu à la question. Comme disent les rugbyman, j'ai botté en touche. Hein, ce ballon, cette patate chaude qui était le mal en moi, j'ai fait une passe. Et il est en touche, mais mon interrogation demeure, puisque moi, je fais l'expérience du mal. Et Augustin demeurera longtemps, plus de 10 ans, hein, dans le manichéisme. Et à la fin, il dira, ça ne répond pas à la question. Parce que ce mal, j'ai beau dire, c'est pas moi, c'est l'œuvre d'un dieu, alors pas d'un dieu d'ailleurs, d'un dieu du mal, donc qui n'est pas vraiment Dieu, qui n'est pas le créateur, mais qui est celui qui a fait toutes les réalités matérielles. C'était la doctrine manichéenne. Hein. Il y a Dieu qui a créé les choses spirituelles, et puis il y a une sorte de sous-Dieu, un Dieu un peu inférieur, qui a fait les choses matérielles, et avec la matière, le mal est rentré dans le monde. Et donc, en moi, il y a ce qui vient de ce Dieu du mal et ce qui vient de ce Dieu du bien, mais moi, je suis responsable de rien. Et ça, c'est profondément insatisfaisant. Et je crois que nous avons... Alors, on en sort peut-être un tout petit peu, mais nous avons vécu pendant quelques dizaines d'années une sorte de manichéisme intellectuel qui faisait qu'on disait ben, « si tu fais du mal, ce n'est pas de ta faute ». C'est la faute de la société ou de tes parents ou de ta réaction psychologique. Et attention, je ne dis pas que, c'est pas, que la psychologie n'est pas nécessaire. Il est absolument nécessaire de faire de la psychologie pour comprendre pourquoi j'ai cette blessure. Mais il n'empêche que le mal, c'est moi qui le fais. Et vous voyez, ça, c'est une expérience augustinienne très forte. Qui le conduit à Dieu ? Je, moi, librement, je fais des choses dont je sais qu'elles sont mauvaises, que fondamentalement je ne veux pas faire, mais je fais l'expérience de ma faiblesse. Si je fais l'expérience de ma faiblesse, je fais l'expérience que je suis en mon être même malade, et donc que j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un sauveur. Voilà. Jean-Paul II disait que le grand mal du siècle, c'était la perte du sens du péché, pas au sens de la culpabilité, mais du péché au sens très simple où si je fais l'expérience du péché, alors j'ai besoin d'un sauveur. C'est aussi simple que ça, vous voyez. On arrive dans la Semaine Sainte, nous avons chevillé à l'âme, chevillé au corps, chevillé à la sensibilité, cette expérience, j'ai besoin d'être sauvé, rends-moi la joie d'être sauvé, hein, on prie ça souvent, rends-moi la joie d'être sauvé. Être sauvé, c'est qu'on était perdu. C'est la parole du fils prodigue. Ton frère qui était perdu est sauvé. Il est revenu à la vie. Et donc, pour Augustin, au moment même de sa conversion, le regard qu'il va porter sur Dieu, c'est en même temps un regard qu'il porte sur lui-même, où il dit « Je suis par moi-même perdu, j'ai donc besoin d'être sauvé ». Voilà, la certitude que nous avons besoin d'être sauvés, c'est un point de départ pour avoir une conception juste de Dieu. Sinon, le Dieu que nous chercherons est un Dieu qui nous excuse et donc qui nous masque à nous-mêmes nos propres besoins. Deuxième réponse d'Augustin qui sera fausse, c'est la réponse qu'il aura quelques années après quand il sera à Rome et à Milan et qui va partir vers ce qu'on appelle le néoplatonisme, donc la doctrine de Platon, où il dira bah, « Dieu est un pur esprit, mais pas un esprit personnel ». Donc Dieu, j'allais dire, même si Augustin ne l'aurait pas dit comme ça, Dieu est une idée. Voilà, Dieu est comme un concept. Et notamment, Augustin aura la certitude que Dieu est celui qui est au-delà de la multiplicité, qui est celui qui est parfaitement un. Parce qu'il fait l'expérience du mal, je vous disais, et il dit, le mal, c'est une sorte de dissolution. C'est des choses qui se... Le mal, c'est une dispersion. Vous voyez, si j'arrache toutes les pages de ce cahier que je les jette en l'air, elles vont se disperser. Et Augustin dit, je fais l'expérience de ça, moi-même je me disperse. Un peu comme de la poussière qui part dans le vent, je me disperse, je suis là. Ma sensibilité me tire d'un côté, mon intelligence me tire de l'autre, je ne sais plus où je suis. Et il dit, seul Dieu est celui qui est un. Et donc pour se rassembler, pour revenir à l'unité, il faut essayer de participer à l'un, 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 mais c'est quoi l'un ? L'un, c'est pas quelqu'un. L'un, c'est quelque chose pour Augustin. Et ça ne sauve pas, et ça, c'est enrichissant intellectuellement. Vous voyez, c'est une foi intellectuelle, c'est une foi conceptuelle. Et il fait l'expérience que ça ne suffit pas, qu'avoir une philosophie ne suffit pas à combler les besoins de son âme. Et donc, il va devoir découvrir que Dieu est à la fois l'un, celui qui est complètement un, celui qui est complètement bon, celui qui est complètement vrai, et en même temps que ce Dieu est quelqu'un qui se penche vers moi. Vous voyez, c'est les deux à la fois, les deux ensemble. Alors, que dira Augustin ? Il dira, Dieu n'est pas seulement vrai, il est la vérité elle-même. Alors ça, c'est le côté presque philosophique, c'est sa démarche philosophique. Et il dira, il est la vérité elle-même parce qu'il est l'être même. Il est celui qui est vraiment. Alors que moi, je suis créé, lui, il est par lui-même. En latin, il dira souvent, Dieu est idipsum esse. Esse, c'est être, idipsum même, l'être, celui qui est vraiment l'être. Donc celui qui ne se dissout pas, tout a été créé par lui. Mais il ajoute, celui qui est l'être même, voyez quelle majesté égale au Père est descendue du ciel dans la chair, voyez comme nous avons été aimés. Et donc l'expérience de Dieu, c'est à la fois, donc, cette expérience-là, pour simplifier, je vais l'appeler la transcendance divine, alors, ou la majesté divine. La majesté divine, c'est-à-dire un Dieu transcendant, c'est un Dieu qui est au-delà de moi. Vous voyez, tout autre que moi, très grand. Donc, il y a bien la majesté divine, la transcendance divine, et en même temps, Dieu a un visage, il s'est fait homme, et il m'a aimé. Et c'est ces deux expériences faites en même temps, j'ai été aimé par ce Dieu qui est l'infini, le transcendant. Il y a un père de l'Église grecque qui dira ce Dieu qui est au-delà de tout. Donc, j'ai été aimé par le Dieu transcendant. Et donc, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé. Et donc, je peux dire, sans danger, je suis pécheur, le mal, je l'ai fait. Puisque j'ai été aimé par ce Dieu transcendant qui peut tout, qui est le Tout-Puissant m'a aimé. Et vous voyez, cette expérience de Dieu me semble vraiment importante. Et c'est vers cette expérience que nous devons essayer de conduire ces pratiquants non-croyants qui viennent chercher à l'Église une protection, un rite, une puissance magique, bref, toutes sortes de choses. On va dire, mais c'est très bien, mais l'important, c'est est-ce que tu as fait l'expérience que tu as été aimé avant même que tu fasses toi quoi que ce soit. Dieu nous a aimé le premier, hein, c'est Saint Jean. Tu as été aimé par un Dieu infiniment transcendant, infiniment puissant, un Dieu qui est créateur et rédempteur. Et c'est exactement ce que nous allons revivre pendant la Semaine Sainte. J'ai été aimé, et quand je regarde la Passion, vous voyez, Augustin, quand il regarde la Passion, il ne dit pas « Oh, comme c'est touchant de voir cet homme qui va jusqu'au bout de l'amour !» Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de touchant dans la Passion ?» Qu'un homme se dévoue, ça on l'a déjà vu. Mais ce qu'il y a de touchant dans la Passion, c'est que cet homme qui se donne, qui s'offre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu fait homme. Et Augustin ne cesse de répéter, alors il a le sens des parallélismes. Donc quand il regarde la Passion, il dit c'est l'égal du Père, c'est le Verbe égal au Père, fait homme qui porte sa croix. C'est le Verbe égal au Père, donc l'infiniment grand, l'infiniment transcendant, qui s'est abaissé jusqu'à prendre la mortalité de l'homme. Il a voulu prendre notre mortalité pour pouvoir mourir. Alors il a une très belle, très beau texte où il joue sur un paradoxe. Il dit « Dieu Tout-Puissant ne pouvait mourir puisqu'il est Tout-Puissant. Alors il a voulu se faire homme pour pouvoir mourir pour moi. » Vous voyez, comme s'il lui manquait quelque chose à sa toute-puissance, qui est quoi ? Qui est la participation à notre faiblesse. Et voilà, je pense que c'est, dans la foi chrétienne, c'est ce qu'on appelle le kérigme, hein, c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est que, pour faire court, Jésus est Dieu, il s'est fait homme pour me sauver par amour pour moi. Voilà, c'est le cœur de la proclamation chrétienne. Jésus est Dieu. Et cela, il me semble que c'est vraiment le moment pour nous de le proclamer, et de le proclamer en particulier pour tous nos contemporains qui se disent Jésus est un Dieu, une puissance, un protecteur parmi d'autres, d'oser dire Jésus est Dieu au singulier, celui dont le nom ne peut pas être mis au pluriel. Parce que les dieux, c'est les puissances. Mais Dieu tout-puissant, s'il y a un tout-puissant, il n'y en a qu'un. Par définition, sinon, il n'est pas tout-puissant. C'est aussi simple à comprendre que 2 et 2 font 4. S'il y a un Tout-Puissant, il est unique. Jésus est l'unique. L'unique s'est fait homme. L'unique m'a aimé au point de se faire homme pour moi et de me réconcilier avec lui. Donc vous voyez, là, hein, qu'au début il contemple comme un néo-platonicien, comme une idée, comme un principe, là, a un visage et il m'a aimé. Voilà, et donc cette expérience de Dieu, voilà, c'est le cœur de l'expérience mystique de saint Augustin, mais c'est aussi le cœur de l'Évangile. Et elle suppose que face à Dieu, ce Dieu transcendant qui m'a aimé, quelle sera ma réaction ? Premièrement, l'adoration, parce que devant le Tout-Puissant, je me prosterne. C'est ma réaction immédiate. Imaginez, on va faire un exercice d'imagination, que là, sur ce bureau, dans 3 secondes, Dieu manifeste sa puissance. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas dire, ah, j'ai une question que je me suis toujours posée, c'est comment les corps vont ressusciter au dernier jour ? Vous voyez, nous, quand on imagine Dieu, on dit, qu'est-ce que j'aimerais lui poser comme question ? J'aimerais savoir pourquoi il m'a aimé. Non, notre réaction devant la grandeur, la transcendance de Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, alors, plusieurs étymologies possibles, mais on dit que une des étymologies, c'est de mettre la main devant la bouche, ad os, hein, pour dire, comme quand je suis saturé, je n'ai rien à dire, je mets la main devant la bouche, j'adore. Voilà. Je fais l'expérience que je suis une créature face au Créateur. Deuxième réaction, puisqu'il m'a aimé le premier, c'est la gratitude ou l'action de grâce. C'est le merci. Troisième réaction, il m'a aimé, c'est-à-dire il entre en relation avec moi, je veux l'aimer à mon tour. Et vous voyez, c'est important de commencer par dire, je suis d'abord saturé. Ah, wow, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas moi qui prends l'initiative vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui m'aime le premier. Donc, j'adore, je remercie, j'aime. Et ça me semble important pour nous. Alors là, on va rentrer dans du plus concret. Dans notre relation à Dieu, de ne pas imaginer que Dieu est à notre disposition. C'est aussi une tendance, peut-être un peu contemporaine. Il y a un théologien protestant du début du XXe siècle, qui s'appelle Karl Barth, qui disait « Attention à ne pas mettre la main sur Dieu ». Et qui a beaucoup travaillé ce sujet, même s'il l'a travaillé dans une ligne protestante qui peut être contestable par certains aspects. Mais l'idée que Dieu est toujours au-delà de nous, qui est très importante, c'est pour que ma vie spirituelle soit stable et ordonnée, elle doit toujours être fondée sur l'adoration, c'est-à-dire sur le sens de la transcendance. Et peut-être le moment, vous voyez, dans la Semaine Sainte où on va le manifester, c'est le Vendredi Saint, à la grande prostration du Vendredi Saint, c'est-à-dire quand les célébrants rentrent à cet office du Vendredi Saint, ils s'allongent de tout leur long, ils se couchent par terre. Pourquoi ? C'est le seul jour de l'année où on le fait, alors on le fait aussi pour les ordinations. Mais, vous voyez, c'est un geste qui dit que devant l'immensité, l'énormité, le côté transcendant de ce qui va se jouer sous nos yeux, Dieu qui se fait homme pour mourir, je m'allonge. Vous savez, au tarot, quand on joue au tarot, là, on fait au tarot à 5, on dit je me couche, on fait les annonces au début, petite, pouce, garde, je ne sais pas si vous jouez à ça. J'ai beaucoup joué quand j'étais interne. Et quand on dit bah, j'ai plus rien à dire, je peux plus, on dit je me couche. C'est exactement ça. Je me couche, c'est en fait je n'ai rien à dire si ce n'est m'incliner, me coucher pour adorer. Et si nous ne fondons pas notre amour sur l'adoration, il y a quelque chose qui va être pas tout à fait juste. Je considère que j'ai droit à l'amour de Dieu pour moi. Maintenant, il est gratuit. Je considère que c'est un dû. Non. Je considère que ça va de soi. Non. Et vous voyez, quand Augustin, pendant des années, va se battre pour la gratuité de la grâce, il se battra contre les Pélagiens, en disant, c'est par pure miséricorde que Dieu nous donne sa grâce. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit « Commence par adorer ». Il dit « Cherche où est le mérite, tu ne trouveras rien, tu ne trouveras que la gratuité ». Nous n'avons aucun mérite antécédent à l'amour de Dieu. Dieu ne m'a pas aimé parce que je le méritais, parce que j'étais beau, parce que j'étais grand, parce que j'étais je ne sais pas quoi. Il m'a aimé gratuitement. Et ça, c'est insupportable dans une société où tout est soumis à la loi du marché. La gratuité, on ne sait plus ce que c'est. Une société où tout est capitalisé, c'est insupportable d'entendre que Dieu m'a aimé alors que je valais rien. Vous voyez, moi, si j'aime, si je dis j'aime ma belle-fille, ça existe. Ben pourquoi ? Parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle vient me voir, parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle fait du bien à mon fils. Voilà. J'aime le chocolat parce que ça me fait du bien. Mais Dieu, pourquoi m'a-t-il aimé moi ? Qu'est-ce que je lui ai apporté ? Qu'est-ce que je lui ai donné ? Rien. Il m'a aimé le premier. Et donc ça, ça suppose vraiment cette réaction d'adoration. C'est-à-dire, face à ça, je me couche. Alors, extérieurement, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être la prostration. Alors, Jean-Paul II aimait beaucoup prier couché, les bras en croix. Quand il allait à Rome chez son ami, il avait un ami polonais à Rome qui était cardinal. Et il se levait la nuit pour prier longtemps comme ça, et dans la chapelle de ce cardinal. Et ce cardinal avait repéré ça, et donc il s'était dit à Rome, tout est en marbre. Donc il va prendre froid sur le marbre. Donc il avait fait mettre un carré de parquet pour que Jean-Paul II puisse prier longuement couché sans prendre froid, une angine de poitrine. Donc voilà, ça c'est vraiment la réaction la plus spectaculaire, mais on peut se mettre à genoux, on peut s'incliner, on peut, vous voyez, tous les gestes qui disent l'adoration, ça peut être les mains jointes, ça peut être les mains ouvertes, dans le signe de la louange, c'est « je n'ai rien à donner, j'ai les mains vides, je reçois tout ». Mais il est capital de l'exprimer, et surtout de l'exprimer intérieurement. Dire « Seigneur, je t'adore, voilà. Je commence par me taire ». Et c'est pour ça qu'un moment de prière, il commence toujours par un moment d'adoration, au sens où je m'en remets à la grandeur de Dieu. Dans le même mouvement, je le remercie. Quand je viens prier, vous voyez, souvent on a tendance à dire « Seigneur, je suis quand même sympa de te donner une demi-heure. Hein, » on aurait peut-être tendance, voyez, à dire, tu pourrais quand même noter, voyez, comme un bon élève qui veut se faire bien noter par un professeur, je te fais remarquer que je te donne quand même une demi-heure alors qu'aujourd'hui je suis très très pris. Hein, je suis vraiment bon dans ma grandeur de te faire l'aumône de mes 30 minutes. Et voyez, à l'inverse, c'est Seigneur, merci de me permettre de venir devant toi. La première chose pour laquelle nous avons à rendre grâce, c'est d'être là. C'est qu'il nous permet d'être devant lui. Vous voyez, lisez l'Ancien Testament, vous voyez le peuple juif qui cherche la face de Dieu tout le temps. Nous, elle est devant nous. Il est donné. Donc, voilà, la gratitude, le remerciement, l'action de grâce, elle vient vraiment dans la prolongation de l'adoration. Et c'est sur cette adoration que va pouvoir se construire une relation d'amitié et d'amour. J'ai été très frappé, c'est une expérience pastorale que je vous livre, de voir que quand j'ai dû expliquer la foi, faire une catéchèse à des adultes convertis ou à des grands jeunes convertis, ça m'est souvent arrivé de court-circuiter cette étape et d'aller directement à l'amour. Parce qu'on va vite, parce qu'on n'y pense pas. Et j'ai toujours fait l'expérience qu'à un moment, ça coince. Vous voyez, je me souviens d'un jeune que j'ai accompagné, que j'accompagne encore, pendant des années. Je lui ai dit, tu sais, quand tu pries, l'essentiel, c'est de dire, Seigneur, je t'aime. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais je peux pas. Moi, j'étais un peu, je me suis dit, ah, il a peut-être un problème psychologique, il n'a pas été aimé dans son enfance, enfin, je commençais à partir. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu peux pas? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'essaye de creuser. Puis au début, il me disait, je sais pas, j'y arrive pas. Alors on creuse, et puis il finit par me dire, mais c'est Dieu. Et là, je me suis dit, oui, j'ai court-circuité une étape, c'était de ma faute. C'est de dire, effectivement, commence par lui dire, mon Dieu, mais devant toi, je ne suis rien, je ne mérite rien. Je n'ai pas droit à te dire que je t'aime. Si toi, tu ne me dis pas, je t'aime en premier. Et je vous donne un autre exemple. J'en ai pas mal discuté avec Michel Onfray, qui est un ami. Et Michel me disait, m'a souvent dit, mais enfin, comment, si Dieu existe, pourrait-il m'aimer moi ? Et vous voyez, moi je disais, mais Michel, tu peux dire je t'aime, et non mais comment il va s'occuper de moi ? Vous voyez, le premier acte de foi, c'est Dieu m'aime. Et lui, il bute là-dessus, il bute ici, il dit, il a un sens de la grandeur de Dieu, il dit, bah, si Dieu est Dieu, il ne va pas s'occuper du petit Michel qui habite au 21e siècle en Normandie, dans son village, il n'en a rien à cirer. Et moi au début, je disais, mais non, il s'occupe de vous, machin, etc. Puis en fait, j'ai compris après, j'ai surtout pas. Il faut dire, mais Michel, vous avez raison. C'est parfaitement impossible qu'un Dieu transcendant s'occupe d'un type aussi inintéressant que vous. Sauf qu'il est tout puissant et qu'il a choisi de le faire librement. C'est la seule réponse. Vous voyez, c'est je n'ai pas mérité, je me connais suffisamment pour savoir que je ne suis pas intéressant. Donc je n'ai pas mérité que Dieu s'occupe de moi. Par contre, lui, il a pu le faire librement par grâce. C'est la seule explication. Et je sais que quand je dis ça à Michel Onfray, il est touché. Alors, il ne croit pas. Il me dit non, ce n'est pas possible. Mais quand on arrive là, il dit bah, ah, j'aimerais, ça serait tellement beau si c'était vrai. Comme j'aimerais pouvoir le croire. Voilà, comme j'aimerais pouvoir le croire. Alors bon, on y arrivera. Alors,
Dieu nous a créés.
Oui. Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous a... La question, c'est Dieu nous a créés.
Oui.
Mais pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Il l'a fait gratuitement. S'il y avait une réponse à ce pourquoi, c'est que Dieu ne serait pas parfaitement libre. Vous voyez, si j'avais une réponse intellectuelle à ce pourquoi Dieu m'a créé, alors c'est qu'il y aurait quelque chose d'antécédent à l'amour de Dieu. Et non, en tout premier, il y a la gratuité de l'amour. Vous voyez, alors moi j'en fais un tout petit peu l'expérience. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure j'étais chez des amis, ils ont un petit garçon qui commence à marcher, qui est un cœur, il se jette dans les bras de tout le monde. Trois fois il est venu, j'étais dans le fauteuil du salon, trois fois il est venu se jeter dans mes bras. Moi j'avais envie de le prendre dans mes bras et lui dire mais t'as raison mon grand. Et vous voyez, moi pourquoi je veux le faire ? Parce que ça fait tellement du bien à un cœur d'avoir un petit garçon qui vous fait un gros câlin. Sauf que moi, j'ai une raison de l'aimer. Ça me fait du bien. Alors, je le fais gratuitement, mais en même temps, je sais que ça va me faire du bien. S'il venait en me tapant sur la figure, au bout d'un moment, je dirais que t'es gentil, mais tu vas rester un peu plus loin. Dieu n'a aucune raison de m'aimer en dehors de lui-même. Si ce n'est une raison... Alors c'est ce que disait Augustin, hein, qu'il est l'amour même, c'est que l'amour est diffusif de soi. C'est-à-dire l'amour veut se diffuser. Mais pas au sens où une maman a sa montée de lait et qu'elle a besoin que le bébé vienne se nourrir parce que ça déborde. Vous voyez, c'est pas une nécessité, c'est purement gratuit. Et cette gratuité, vous voyez, alors, je vous le dis maintenant, c'était un peu ma conclusion, c'est que... Augustin voit dans la grandeur de Dieu quelque chose d'indépassable et il voit que cette grandeur, quand elle passe du côté de l'amour, c'est la gratuité, c'est la grâce. La grâce, c'est le signe de la grandeur de Dieu, mais du côté de l'amour. C'est un amour tellement premier qu'il est absolument gratuit, nécessité par rien, attiré par rien. Tout vient de lui. C'est une origine absolue. L'amour de Dieu est une origine absolue. Voilà. Et vous voyez, là, on entre dans la contemplation. Voilà. Et quand on contemple ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se tait. On se tait, on adore. On adore, on dit merci, et on aime. Voilà. Et on reprend conscience qu'on est aimé gratuitement. Et donc ça, c'est la circularité de la contemplation. C'est plus j'aime, plus je comprends, plus j'expérimente que je suis aimé gratuitement. Donc plus je me tais, plus je dis merci, plus j'aime, plus je comprends, etc. Et il y a ce cercle de la contemplation qui se met en œuvre et qui est ce qu'on appelle l'expérience de la vie spirituelle. Alors l'expérience mystique, pas au sens où on monte dans les airs comme Sainte Mariam de Jésus crucifié, mais simplement on fait un peu l'expérience de Dieu. Cette expérience de Dieu, je reviens sur une chose que j'ai un peu dite la dernière fois sur les ténèbres. Cette expérience de Dieu ne se fait pas par concept. La ligne philosophique, c'est plus je pense Dieu, plus j'éclaircis le concept de Dieu. Elle a sa pertinence jusqu'à un certain degré, mais il y a un moment où ça plafonne. Voilà, je peux donner des définitions, c'est très bien, il faut le faire. La théologie spéculative aussi. Et là, on rentre dans une autre forme de théologie, qui est la théologie, on va dire, des saints, ou la théologie spirituelle, qui fait que plus j'aime, je contemple ce Dieu qui m'a aimé, plus je ne veux pas dire que je le comprends, mais plus je fais l'expérience du fait qu'il m'a aimé. Et cette expérience-là, elle n'est pas forcément lumineuse, au sens où elle n'est pas conceptuelle. On va parler d'expérience ténébreuse ou d'expérience dans la foi. Augustin parlera de la docte ignorance. Docte ignorance. La docte ignorance, c'est quoi ? C'est je fais l'expérience que plus j'aime, plus j'ai l'expérience que je suis aimé. Donc je sais que Dieu m'aime, mais j'ignore pourquoi, j'ignore comment et j'ignore qui il est. Donc je sais davantage, mais en sachant davantage, je fais l'expérience que j'ignore encore davantage. Et ça, c'est vraiment la contemplation de Dieu. C'est une contemplation qui est savoureuse. Vous voyez, quand je vais prendre une image pour vous, pour essayer de vous le faire comprendre. Quand on me sert une part d'un gâteau non identifié. Ça arrive, vous voyez, chez nous, il y a souvent des restes. Parfois, c'est non identifié. Le repas du soir, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Je fais l'expérience que je goûte. Je goûte les saveurs, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, par les saveurs, j'en fais l'expérience, mais je ne suis pas capable de mettre les mots dessus. Ben, c'est un peu pareil avec Dieu. Je goûte quelque chose de Dieu en me laissant aimer, mais je n'ai pas la théorie de ce que j'ai goûté. Et donc, ne demandez pas à la vie spirituelle de vous donner la théorie. Elle n'est pas là pour ça. Il y a des théologiens, etc. Ils font leur boulot. Et c'est bien. Je dis ça parce qu'il y a la formation permanente qui est là. Voilà. Non, mais il faut. C'est absolument nécessaire. Mais le but de la vie spirituelle n'est pas de nous donner une théorie sur Dieu. Elle est de nous faire goûter Dieu. Alors, des théologiens, pour le coup, nous dirons plus tard que vous voyez, cet amour que nous portons à Dieu nous permet d'avoir comme un toucher de Dieu. Si je suis aveugle, je me dis, tiens, il y a ici quelque chose qui ressemble à une porte. Je ne sais pas si c'est une porte, mais j'ai un toucher qui me permet de dire, j'ai touché quelque chose qui ressemble à. Quand je parle de Dieu, par expérience, je peux dire, Dieu est comme. Et vous remarquerez que tous les saints qui parlent de leur vie de contemplation emploient des images. Il est comme un feu dévorant, il est comme un torrent, il est comme... toutes les images... Alors, chez Sainte Mariam, vous en avez à foison des images. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas dire autrement que par comparaison, il n'y a pas un concept au-dessus de Dieu. Ça me rappelle ce que j'ai expérimenté quand j'ai été pris par le flot du torrent. C'est une brûlure. Ou alors, on va prendre des images qui sont parfois paradoxales. C'est comme un feu très doux. Mais alors, ça veut dire quoi ? Un tout petit feu ? Non, un feu dévorant, mais dont la brûlure est douce. Alors, si vous prenez les écrits des mystiques, vous dites, c'est les frappés. Un feu dont la brûlure est douce, ça ne veut rien dire, au point de vue conceptuel. Mais au point de vue de l'expérience, oui, c'est comme un feu qui ravage, et pourtant cette brûlure est infiniment douce. Ben ça, vous le retrouvez chez Sainte Thérèse d'Avila, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chez Eckhart, chez tous les saints qui ont essayé de mettre des mots sur l'expérience qu'ils avaient de Dieu. Et donc on peut dire, parfois ça nous arrive, je souffre terriblement, et pourtant je suis dans la joie. Vous dites ça à un psychiatre, il vous dit, ok, vous allez prendre... Trois comprimés le soir et deux le matin. Voilà. Mais, et heureusement, parce que le but du psychiatre, c'est que nous ayons un langage sensé et clair. Mais quand nous disons, et mais on fait tous des expériences de ce type-là, hein, les paradoxes de l'expérience de Dieu, on les fait parfois à notre toute petite échelle. On n'a pas besoin d'être un grand mystique. C'est quand je prie, c'est dur. J'ai l'impression d'être au désert, et pourtant c'est si doux que je ne peux m'en passer. T'es maso, t'es pas bien, nanana. Non, je fais l'expérience de Dieu. Voilà, je fais à mon échelle l'expérience de Dieu. Ou parfois, on va dire, je fais l'expérience d'une immense sécheresse qui fait tant de bien à mon âme. Ou ce sont des torrents de consolation qui me font pleurer. Parce que ça me fait mal de voir à quel point je suis loin de Dieu. Donc, vous voyez, cet amour pour Dieu me fait comprendre qui est Dieu tout en me laissant dans l'ignorance. Donc je comprends dans l'ignorance, on pourrait dire plus exactement j'expérimente, mais dans l'ignorance. Alors le mot expérience, saint Augustin l'emploie, il y a toute une querelle sur le mot expérience de Dieu, parce que saint Thérèse d'Avila place l'expérience de Dieu au cinquième demeure, peu importe. Il y a expérience de Dieu dès qu'il y a un contact par la foi et la charité. Au sens large, il y a expérience de Dieu. Parce qu'il y a un retour de l'amour, et donc il y a transformation en moi. Donc on peut parler d'expérience de Dieu. Pour Augustin, c'est très clair. Et d'ailleurs, je l'ai noté, le texte, il en parlera de cette expérience dès après sa conversion, quand avec sa maman, Monique, il sera à Ostie. Le pape y est allé il y a quelques semaines, là. Sur le bord de la mer, et ils font une expérience tous les deux. Ils parlent et ils contemplent en même temps la nature, et ils disent nous traversons d'abord les choses créées, les objets, la nature, le ciel, la mer, et puis ils disent nous allons au-delà, il y a le Créateur. Et il dit nous traversâmes tous les degrés des choses pour arriver jusqu'à la sagesse. Ils font l'expérience de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? C'est au sens biblique, la sagesse, c'est Dieu lui-même. En tant qu'il peut être goûté, expérimenté. Le mot sagesse a la même racine que sapidité, hein, ce qui est salé, ce qui donne du goût. Donc on peut vraiment parler d'expérience de Dieu. Et je voudrais finir, du coup, on va faire la conclusion là-dessus, c'est très curieux, une fois qu'on en est là, on est dans des réalités très hautes, très intimes, et Augustin, à ce moment-là, notamment dans la lettre à une dame qui s'appelle Proba, qui a toute une lettre sur la prière, va dire, et du coup, comment faut-il prier ? Et il répond, très surprenant, prier avec des mots, et en particulier avec les mots du Notre Père. Il fait tout un commentaire du Notre Père. Mais il se demande avant pourquoi ce Dieu qui est le Très-Haut, nous le prions avec des mots qui sont des mots humains. Et il répond, attention, ne croyez pas que les mots sont destinés à faire connaître quelque chose à Dieu. Alors ça me paraît une réalité importante. Vous voyez, nous parfois on va expliquer à Dieu tout ce que nous avons dans le cœur. Mais il le sait déjà. C'est lui qui nous a fait. Il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, dira Augustin. Donc il nous connaît même mieux que nous ne nous connaissons. Donc on n'a pas besoin de lui faire une sorte de psychanalyse, voyez, de sortir tout ce que nous avons dans le cœur. Il le sait déjà. Le but n'est pas d'expliquer quelque chose à Dieu. Il sait tout, et il sait tout mieux que nous. Quel est le but alors ? Augustin dira, le but est de rectifier par nos mots nos désirs. Si nous prenons des mots, c'est pour rectifier nos désirs intérieurs. Et il commente le Notre Père et il dit que le Notre Père nous a été donné par Jésus pour rectifier nos désirs intérieurs. Et en commentant les demandes du Notre Père, il nous fait remarquer que déjà le premier mot, Notre Père, permet de dire en un mot la grandeur de Dieu, c'est le Père, et son visage d'amour, c'est le Père aimant, c'est notre Père, c'est pas le Père, c'est notre Père. Donc, vous voyez, le Notre Père nous rectifie. Notre Père qui est aux cieux, majesté divine, mais c'est le mien. Et les demandes, elles sont dans le bon ordre. C'est-à-dire la première demande, que ton nom soit sanctifié. Je demande quoi ? Adoration. La gloire de Dieu. Le nom de Dieu, c'est sa gloire, c'est son rayonnement. Soit sanctifié, soit loué. Dieu n'a pas besoin d'être plus saint qu'il n'est. Il est la sainteté même. Mais sanctifié, c'est mis à part, loué, adoré, qu'un culte soit rendu à Dieu. C'est exactement l'adoration. Donc, quand Dieu nous enseigne à prier, il nous fait regarder vers lui dans les deux aspects, son immense transcendance et sa proximité. Augustin dira son nom de gloire et son nom de miséricorde. Il nous demande d'abord de l'adorer, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, pas que ma volonté soit faite. Vous voyez, c'est que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton amour vienne vers moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il nous renvoie à la transcendance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah, ouf, on parle un peu de nous. Mais c'est quoi ce pain ? Ça nous répond, ce pain c'est d'abord lui et c'est l'Eucharistie. Pardonne-nous comme nous pardonnons et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais voyez, on met les choses dans l'ordre. Donc je voudrais finir ce petit cycle sur saint Augustin en remettant les choses dans l'ordre et en vous disant qu'une prière augustinienne, c'est d'abord une prière qui se tourne vers Dieu avant de se tourner vers l'homme. Et une prière qui se retourne vers l'homme, elle court toujours le risque de se recroqueviller. Et en se tournant vers Dieu, nous sommes sûrs de donner sa juste place à l'homme. Parce que, alors on parlait de la création, Augustin dira à propos de l'homme, il y a trois étapes dans la vie de l'homme, la création, la conversion, la formation. Donc Dieu me crée, la conversion c'est ce mouvement-là, je reçois l'amour et je remonte par amour. Et à ce moment-là, il dira « je suis vraiment formé », c'est-à-dire « je suis vraiment moi-même ». L'homme n'est pleinement lui-même que lorsqu'il s'ouvre à la grandeur de Dieu. Et donc c'est le paradoxe, c'est que si je veux savoir, si je veux être moi-même, plutôt que de me chercher, je dois m'ouvrir et chercher la gloire de Dieu.
C'était une conférence du père Michel Leclerc sur saint Augustin et la prière dans le cadre de l'école de prière à Pau, enregistré le 24 mars 2026.